Vous écoutez RDL, la radio libre du 103.5, dans l'émission Des mots et des notes, et je vous laisse en compagnie de Bernard, votre hôte, et de son invité. C'est à toi, Bernard.
RDL 68, 103.5. Matin, monsieur, bonjour, et bienvenue dans l'émission Des mots et des notes. Des mots et des notes sur la fréquence du 103.5. C'est une émission qui est proposée par l'association La Plume Colmarienne. Et en cette période de l'année, nous avons le plaisir d'accueillir des invités qui ont écrit, qui sont en train d'écrire, mais qui parlent surtout de livres d'écriture. Aujourd'hui, nous avons notre invité, Madame Florence Soufflet. Florence, bonjour.
Bonjour Bernard.
Tu es venu avec ton livre qui s'appelle
D'un jardin, l'autre.
Voilà. Écoute, on a tellement envie de dire d'un jardin à l'autre. Je sais que ce n'est pas de ta faute, mais je dirais que si vous vous trouvez à la lettre A quelque part dans les rues de Colmar, vous la ramassez ou on va vous remercier. Oui, parce que cette lettre A s'est perdue. Je ne sais pas si c'est une histoire d'éditeur, d'imprimeur. Enfin, qu'importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'un jardin à l'autre, c'est une histoire d'amour.
Tout à fait. Bonjour, Bernard.
Nous ne sommes pas à la Saint-Valentin, mais c'est une histoire d'amour. Qui, à la voir comme ça, je dirais que elle a commencé en... Enfin, elle est là, cette histoire d'amour, et sur la couverture, il y a une belle silhouette. Qui est-ce qui a fait ce dessin?
C'est moi, Bernard. Donc, je vais commencer. Je vous dis bonjour. Merci à vous. Un grand merci à Radio Drakeland pour son accueil. Et merci aux auditeurs de nous écouter.
Tu veux redire Drakeland parce que tu sais le dire, oui. Puisque tu as fait de l'allemand.
Je me suis entraînée quand même, hein, Drakeland.
Voilà. Oui, Drakeland, oui.
Alors, donc tu parlais du titre et de la période, on va y revenir si tu veux bien.
On commence par le commencement.
Il y a un mystère, effectivement. Donc déjà, je suis Florence Soufflet, donc... qui est-ce que je suis? Eh bien, Florence Soufflet, déjà. Donc, j'aime mon prénom et mon nom qui me relient déjà à d'un jardin à l'autre et au jardin. Alors, qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis écrivaine, historienne? Je suis d'abord une exploratrice. Je me situe comme ça, et ce qui est déjà énorme. Et j'aime et je crois au pouvoir de la création.
Tu es exploratrice de l'histoire et de l'histoire familiale.
Et d'une histoire aussi, puisqu'il s'agit d'un roman. Donc effectivement, j'appartiens et j'adhère à la plume colmarienne dans ce désir de partage de l'expérience littéraire.
Parce que quand ton livre a été, que tu l'avais eu en main, tu dis comment je vais le faire pour y aller aux différents festivals?
Alors, mon livre, c'est une longue histoire. L'écriture de ce livre, elle s'étale vraiment sur de nombreuses années. C'était un projet. Donc, il y a d'abord eu une gestation et puis il y a eu plusieurs années d'écriture. Et voilà, donc, il n'est pas né comme ça d'un coup de chapeau. C'est vraiment quelque chose qui a empli ma vie et qui m'a portée. Donc, c'est avant tout une aventure intérieure. Il se lit comme un thriller psychologique, mais avec une trame historique. Alors, déjà, de quoi s'agit-il? Je fais la question.
Hein. Oui, oui.
Alors, c'est l'histoire d'un abandon du père, dans le contexte de la guerre d'Algérie, au sein d'un couple mixte.
Ça, c'est... Hier soir, je me suis dit, un abandon du père, c'est pas tellement fréquent. C'est plutôt les mères qui, soit qu'elles accouchent en sous-X ou...
Oui, enfin, je crois que le thème de l'abandon, enfin, je n'ai pas fini de présenter, mais le thème de l'abandon, c'est quelque chose qui est en fait très large. Ça peut nous toucher de façon individuelle, mais l'abandon, il peut toucher non seulement les parents et les enfants, enfin la relation parent-enfant, mais il peut aussi avoir trait à l'immigration ou à d'autres formes, ou aux trahisons, etc. Donc c'est un concept très large. Alors, donc je poursuis le résumé du livre. Donc à la mort de ce père démissionnaire, qui s'appelle Azur, sa fille Flore vit une sorte de deuxième abandon. Donc ce deuxième abandon, il va agir comme un tremplin. Donc Flore va tenter de retrouver le message de son père auquel elle n'a pas voulu téléphoner juste avant sa mort et par là même tenter de se retrouver elle-même. Voilà.
Et le fait d'avoir recherché un peu ce lien paternel, ça permet à notre auteur de vivre, bien vivre.
Oui. Alors, et effectivement, la question, c'est quel mot, quel message souhaitait ardemment transmettre Azur avant de mourir à Flore, sa fille, qu'il a abandonnée, alors que celle-ci n'était âgée que de quelques mois. Que voulais-tu me dire avant de partir ? Demande Flore intérieurement à son père décédé. C'est la dernière phrase du premier chapitre. Donc, et cette phrase percutante donne la ligne directrice de tout le livre. Donc, et autour de cette ligne directrice se déploie l'arborescence de toutes sortes d'autres messages. Mais le livre reste dans une cohérence. Cette phrase fondatrice sur laquelle s'appuie tout le livre, s'inscrit tout en même temps comme le démarrage d'une quête identitaire de Flore, le démarrage d'un chemin de soi avec pour trame de fond la grande histoire.
Tu sais, Florence, depuis le 16 avril, j'ai ton livre et j'ai commencé à le lire. Je l'avais en main tous les jours, soit un chapitre, soit deux, et chaque fois je me suis retrouvé dans ton histoire, et c'est là que je me suis dit, il faut qu'on l'invite pour qu'elle sache que le Festival du Livre de Colmar, qui aura lieu fin novembre, tu puisses aussi rencontrer les visiteurs et les lecteurs.
Oui, c'est un vrai souhait. Donc, effectivement, il y a une densité dans ce livre. Donc, Flore se fait actrice de sa relation avec son père, sa mère, les personnes rencontrées, avec l'histoire aussi qu'elle découvre de l'Algérie, qu'elle ne connaissait que très peu. Donc, elle mise sur la tentative de comprendre la face cachée des choses. Donc, elle refuse le néant de la mort. Et là, la mort joue vraiment le rôle de catalyseur, d'amplificateur de besoins de la relation. Donc l'idée, c'est aussi d'emmener le lecteur simultanément dans un tourbillon d'émotions. Donc le sentiment d'abandon, une recherche éperdue. Et donc le lecteur, je n'ai absolument pas envie de le ménager. Il fallait que qu'il se laisse toucher comme moi-même j'ai été touchée par cette histoire que j'ai moi-même mieux compris.
Florence, oui, on peut dire que nous sommes la génération de l'histoire. Parce que ton histoire, elle vient dans les années 45, la fin de la guerre. Ok, chouette, la guerre est finie. Des militaires sont, ou ex-prisonniers, sont démobilisés. Ils sont dans les grandes villes et, de ce fait, rencontrent d'autres personnes.
Oui.
Et c'est là que démarre cette histoire d'amour d'une façon assez rapide, mais l'histoire, n'oublions pas que la France a été occupée par les troupes allemandes et cette occupation a fait que les troupes allemandes, la politique allemande de l'époque a fait qu'il fallait s'occuper des gamins, des enfants, et quelque part nous retrouvons das kleine Fräulein.
C'est vrai. Alors, c'est vrai que l'histoire d'un jardin, je suis un peu historienne et je sans me prévaloir de ce titre. Donc, la trame de fond est très large puisqu'elle va démarrer dans les années 30. Et puis, on va arriver jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je ne veux pas tout dévoiler, mais bon, je ne dis pas tout non plus par rapport à,
surtout pas
à la,
le mot de la fin.
Période. Donc, je vais affronter, à travers mes recherches, à ce qui m'horrifie le plus, la violence, la guerre, la mort, le crime. Et je me rends compte aussi que effectivement, l'histoire de la guerre d'Algérie, ça c'est quelque chose que j'ai compris, était liée aussi à toute l'histoire du XXe siècle. Et également à la personnalité des personnages, à la dimension des personnages. Et donc ça m'a beaucoup touchée. Donc, alors l'intérêt historique de ce livre, on pourrait citer de nombreux passages et je ne vais pas tous les dévoiler, mais effectivement, Kleines Fräulein, ça agit vraiment comme comment dire, une lumière. Ça nous relie à notre humanité. Ça montre aussi quels sont les liens entre Aliénor, Azur et Flore. Finalement, comprend qu'il y a une compassion dans les personnages. Alors, donc cette histoire de Kleines Fräulein, c'est la rafle, je le résume, mais c'est la rafle de deux jeunes enfants juives. Je cite leur nom. Pour leur rendre hommage, donc il s'agit de Michel et Françoise Lévy qui ont été prises par la Gestapo au lycée Marceau de Chartres. Donc ce sont deux, j'ai volontairement laissé leur nom parce que il s'agit de deux enfants martyrs de l'horreur nazie. Donc en résumé, la petite Michel était en classe à côté d'Aliénor, maman en fait, véritablement, qui était très jeune. Et maman avait 2 ans d'avance, donc bien, bien plus jeune encore. Michel Lévy avait environ 6 ans ou 7 ans, et sa sœur un peu plus âgée ont toutes deux été arrêtées pour faire ensuite l'objet d'expérimentations nazies.
On donc, dirait que tu as été témoin de cette arrestation.
Vraiment, oui, quelque part. Merci.
Peut-être.
Merci, oui, tout à fait. Et c'est vrai que maman, son histoire, cette histoire, elle est dans le cœur de ma maman. Et donc, on est guidé par le cœur et le fait que cette histoire ait été intériorisée comme cela, on a facile à la visualiser. Alors, elle est dans notre mémoire.
Tout à fait, oui. Est-ce que tu as envie de lire le passage Kleine Fräulein?
Oui, volontiers. Merci Bernard. Kleines Fräulein. Avril 1942, lycée Marceau de Chartres, classe de cours élémentaire, 2e année. Une porte s'ouvre dans la classe, fleurant l'encre et la craie. Les chaises crissent. Les enfants se mettent au garde à vous. L'enseignante, elle aussi, s'immobilise, au détriment d'une leçon de grammaire sur l'accord des participes. Le directeur, garni d'un monocle doré, fait une entrée triomphale. Figé dans une expression de contentement, il toise les élèves, tandis que la vieille demoiselle institutrice s'entiche d'un air empêtré. 2 officiers de la Gestapo escortent le directeur. On sait que la Gestapo s'est installée dans les bâtiments à l'arrière du lycée. Jusqu'à ce jour, on ne l'avait vue que dans la rue, mais on entend souvent les cris gutturaux de l'entraînement militaire derrière les murs élevés de la cour de récréation. Des hurlements qui ressemblent à des cris de bêtes. De bizarres relents d'odeurs de pommes de terre parviennent au nez des enfants concomitamment. Mais eux, guidés par une prudence instinctive, s'abstiennent de tout commentaire, même entre eux. Aujourd'hui, la Gestapo est là, œil et sourire carnassiers, en bottes et uniforme rutilant. Comment travaille votre classe aujourd'hui, Mademoiselle Tuilier ? Mademoiselle Tuilier, dont la voix chevrotante confirme l'âge avancé, est animée de l'obsession du devoir bien fait, de la besogneuse perfection. En témoigne son impeccable tablier, porté été comme hiver, son sempiternel chignon, grisonnant, assorti à son tablier. En réponse au sourire de l'autorité établie, avec obséquiosité, « Très bien, monsieur le directeur. »« C'est parfait, mademoiselle Tuilier. Voir nos élèves progresser s'avère toujours gratifiant. »« Sehr gut, » commente avec gourmandise l'officier SS, apparemment le plus gradé. Le même officier, jabot gonflé de la gloire des vainqueurs en exil, la contenance lointaine, s'adresse alors au directeur, le ton aigre-fin. Avez-vous dans cette classe ein kleines Fräulein, Michel Lévy ? Oui, monsieur l'officier. N'est-ce pas, mademoiselle Tuilier ? Tout à fait, monsieur le directeur. L'officier pivote alors vers le directeur du lycée. Sehr gut, wunderbar. Et comment travaille dieses Fräulein ? Le directeur se tournant vers mademoiselle Tuilier. Et comment travaille mademoiselle Michel Lévy ? Très bien, monsieur le directeur. Le directeur toupillant en sens inverse vers l'officier SS le plus gradé. Mademoiselle Michel Lévy travaille très bien, monsieur l'officier. C'est très bien, sehr gut. Qui est dieses kleines Fräulein, bitte ? Tous les regards des adultes, celui de mademoiselle Tuilier, celui du directeur, ceux des officiers SS convergent vers ta petite voisine de table, Aliénor. Les enfants, eux, restent comme statufiés. Toi, tu as l'enfance de tes 2 ans d'avance, mais déjà tu sais. Michel a un visage poupin, celui des enfants aimant la vie, les personnes et les choses, in extenso. Des enfants qui offrent leur confiance immédiatement, sans monnayer ni barguigner. Kommen Sie, bitte. En tablier noir, école Claudine, Michel se dirige vers le tableau noir, avec la grâce et la docilité qui sied à son âge. Tu pressens l'hypocrisie des adultes. Ton cœur bat la chamade. La délégation SS peut enfin repartir avec son précieux butin. Michel ne reparaîtra jamais plus, de même que sa sœur Françoise, de 5 ans plus âgée. On apprendra à la fin de la guerre que Michel et Françoise servirent de cobayes aux expérimentations des médecins nazis de Dachau, puis furent gazés.
C'est juste un petit hommage à Michel et à Françoise.
Lévy.
Lévy, oui.
Tout à fait, voilà. Voilà.
Et tu as tenu à ce que leur nom continue à figurer dans le livre.
Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, c'est un épisode historique complètement réel et que j'ai tenu à insérer et à déployer, à développer dans le livre.
Oui. Alors, pour écrire ce livre, quand est-ce que tu écris ? Le matin, le soir, la nuit ?
Alors.
Je sais que c'est une question un peu...
J'écris, comment dire, c'est un style d'écriture en fait. J'écris d'abord à partir d'une intériorité. C'est-à-dire que ma méthode est intuitive, donc je n'ai pas de méthode.
Tu sens qu'il y a quelque chose qui vient, tu prends la plume et tu commences à écrire.
Voilà, donc je n'ai pas de clé, par contre, j'ai une conviction. Donc ce livre, c'est vraiment le produit d'une conviction, le produit d'un travail. Donc l'intériorité est fondamentale. Et les recherches historiques ont été très, très nombreuses. Et elles n'ont été qu'une facette de mon travail. Donc, le fait d'écrire, j'écris forcément d'abord pour moi-même et ensuite pour le lecteur. Mais le lecteur est extrêmement important, il est précieux. Donc, cette écriture, elle me portait, mais ensuite, la volonté de la partager. Donc, j'ai souhaité, en écrivant ce livre, garder un lien très fort avec le lecteur. Et donc, pour moi, le lecteur, je suis dans un dialogue avec lui aussi. Et il va entrer en résonance, sa lecture va entrer en résonance avec mon écriture. Donc, c'est très important la façon dont j'écris, effectivement, parce que j'écris à partir d'images. Et donc, ce sont des images intérieures qui me sont révélées. Alors, ça dépend, donc on ne maîtrise pas son inconscient, mais je suis au départ d'abord peintre. Et donc, j'ai une mémoire plutôt visuelle, j'ai une compréhension plutôt visuelle, et donc je suis restée fidèle à cette sorte de compétence. Et donc les images, les situations m'apparaissent d'abord intérieurement. Elles peuvent venir à la suite de conversations, à la suite d'échanges oraux, mais elles peuvent aussi venir à la suite de recherches livresques. Donc, j'essaye de restituer une réalité de façon la plus scénique possible, mais pas seulement parce que je suis dans le courant d'une mode, parce qu'on est quand même dans un courant artistique très, très visuel, mais aussi parce que j'ai ce don au départ de... Enfin, j'appelle ça un don, mais c'est aimer peindre, tout simplement. Alors, comme les principaux héros du livre, ce que sont Azur, Aliénor, avaient un tempérament de feu, eh bien, j'ai envie vraiment de leur rendre hommage et d'être le plus juste possible quant à leur présence très concrète. Et en plus, ce sont des personnages qui, eux-mêmes, sont attachés à l'image. Donc, tout est cohérent, finalement. Donc, ces scènes que j'écris, elles ne se sont pas révélées d'un seul coup, puisque l'écriture a duré de nombreuses années. Elles ont émergé au fil du temps, donc au fil de souvenirs aussi que je me remémore, au fil de mes échanges avec des personnes, au fil des recherches. Donc, ce sont des démarches de rencontres au sens propre et au sens figuré, pour faire émerger ce livre. Et ces démarches agissent en convergence, mais aussi interagissent entre elles. Et donc, il y a eu comme une sorte d'interstimulation, de stimulation augmentée, si on peut dire, comme une conflagration qui a fait naître des rêves, des images, des rêves aussi bien des rêves nocturnes que des rêves éveillés. Donc, mon inconscient a vraiment interagi avec mes recherches. Donc, ma maman aussi a été un témoin de cette histoire, hein, et j'ai rencontré d'autres témoins qui m'ont inspirée et qui ont inspiré la construction de personnages.
Alors, à un moment, je me suis dit, mais elle est en train de faire de la peinture, de peindre les mots.
Oui.
C'est-à-dire, non pas seulement mettre la coloration, mais vraiment, le lecteur se sentait pris en... Tu le prends par la main et tu es en train de te partager avec lui.
C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'était important de rester fidèle à cet esprit poétique. Enfin, pour moi, l'écriture, c'est une mise en image. Et donc tout est lié.
T'es une coquine, tu prends mes mots.
D'accord.
Oui.
Oui. Oui.
Oui, c'est vrai.
Je t'en prie, je te laisse parler.
Non.
Vas-y. Non, mais c'est vrai.
Donc
c'est...
ça a permis de donner du volume à ce livre qui a au moins dans 300 pages. Il y a, oui. Oui, c'est mes petites interprétations, c'est un message technique.
Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi, près de la où notre chaumière bat comme un cœur plein de joie. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Mais dans mes bras, quelqu'un d'autre que toi, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. L'eau de la rivière fleure la bruyère et ton sommeil est à moi. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Toi, mon enfant, tu es là.
Et nous sommes de nouveau là dans nos studios. Florence, tu avais voulu rajouter quelque chose tout à l'heure?
Oui, alors déjà par rapport peut-être à la musique qui vient de passer, oui, je veux bien rajouter quelque chose, mais la musique qui vient de passer, c'est la ballade irlandaise qu'aimait Aliénor, c'est-à-dire ma maman. Voilà, c'est le personnage inspiré de ma maman, Aliénor. Et voilà, donc elle aime énormément cette chanson et donc j'ai tenu à la faire passer.
Eh bien, une pensée à ta maman. Bien.
Merci.
Alors ton livre, à quel moment as-tu pu dire le mot fin?
Eh bien, écoute, alors je vais reprendre un tout petit peu sur le style parce qu'il est effectivement très dense comme tu l'expliquais. Le fil, alors par rapport au style, tu me demandais comment j'écrivais, eh bien, pour moi, c'est surtout une question de méthode. Donc, il n'est pas question d'écrire le matin ou le soir. Je pense que le matin, le soir, les week-ends, c'est tout à fait propice à l'écriture. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute d'une intériorité. Donc, je disais que les scènes ne se sont pas révélées d'un seul coup, effectivement. Elles ont émergé au fil du temps. Et donc, je parlais également de visualisation intérieure, de rêve éveillé, etc. Et alors, ce qui est important dans ce livre, c'est que le fil conducteur n'est pas linéaire. Donc, les chapitres s'égrènent selon un ordre non chronologique. Et la logique, c'est le fil conducteur, c'est la volonté, la détermination de Flore de retrouver ce message manqué. Donc, chaque scène restitue à Flore des éléments qui la mettent sur la piste du message, du personnage d'Azur, d'Aliénor et d'elle-même, parce qu'on est aussi dans la recherche d'un chemin de soi. Alors, on dirait presque que Flore a compris que pour découvrir le message, elle se doit d'accéder à une sorte de réalité augmentée, de suprasensorialité. Et cette suprasensorialité, entre guillemets, cette écoute démultipliée, elle ne la devra qu'à son écoute approfondie des contextes ayant interagi avec les choix des uns et des autres. Donc, ce livre, c'est une expérience d'écriture, de lecture aussi, parce que l'idée, c'est bien entendu aussi que Flore inspire le lecteur, que le lecteur se sente proche de Flore. Donc, il s'agit un peu d'une fable initiatique. Et moi, personnellement, je n'ai pas été la même au début et à la fin du livre. Et donc je crois que lire ce livre, lorsqu'on lit ce livre, on n'est plus tout à fait le même au début et à la fin du livre. Donc, mais bien entendu, il s'agit de lire le livre in extenso. Voilà, ça c'est important aussi. Donc il y a une cohérence qui se révèle au fur et à mesure. Donc ce livre, c'est d'abord une expérience.
Et donc, avec cette écriture, tu commences à visualiser tes chemins de ton père, même s'il n'est pas dit « Attends, il t'attend ici, il fait cela ». Simplement, tu as-tu ressenti, d'ailleurs, si on regarde le nombre de muses qui sont sur ton épaule droite, il y en a plus que deux ou trois. Il y a au moins une dizaine qui te permet de dire, parce que tu touches à la céramique, on peut le dire, la musique, tu y es actuellement écriture, mais aussi musique de piano. Oui.
Un peu moins.
Ouais. Un peu moins, mais au moins c'est un début. Il y a un accord qui se pointe, qui arrive à se mettre en place. Et c'est ça qui est important, savoir qu'il y a une muse qui, à travers toi, va pouvoir vivre et générer du plaisir à un auditoire, petit ou plus grand, mais au moins... Toi, cette muse, elle a pu s'extérioriser et vivre. Et c'est ça qui me paraît important.
Alors, effectivement, tu parlais tout à l'heure d'histoire d'amour. Donc, c'est vrai que l'écriture du livre, c'était aussi une histoire d'amour. Donc, j'ai eu envie de me raconter une histoire que je puisse recevoir, qui me convenait. Donc, il y avait une exigence. Et donc Flore, c'est un personnage qui n'est pas exactement moi-même, mais qui me ressemble. Il y a vraiment une détermination de Flore et une détermination que je partage avec elle aussi. Donc j'ai eu envie de me raconter une histoire que je puisse recevoir, mais également que je puisse raconter à chaque lecteur et que chaque lecteur puisse recevoir cette histoire. Donc cette histoire à laquelle il puisse adhérer, dans laquelle il baigne, et donc lui montrer des angles de vue, des perspectives qui lui restituent une réalité de façon la plus vivante, la plus réelle et la plus large possible, à travers cette histoire singulière à laquelle il puisse s'identifier pour la comprendre. Donc, je suis allée jusqu'à la racine des identités, des personnages principaux, Azur et Flore, et qui me permettrait, Azur, Aliénor, pardon, et Flore, qui permettrait à Flore de deviner plus facilement les mots d'Azur emportés par la mort. Donc, cette écriture n'hésite pas à évoquer effectivement l'enfance de Flore, d'Aliénor, d'Azur. Donc j'avais envie de toucher profondément le lecteur, de lui faire ressentir de la douleur, des douleurs, de le maltraiter, à la limite de lui faire mal, de lui faire ressentir la douleur non seulement de l'être aimé, tout à coup absent, du fait du deuil, mais aussi tout un panel d'émotions. Donc j'ai eu envie que son cœur se glace de peine, d'horreur, de peur, qu'il vive la monstruosité de scène du livre, mais aussi la lumière, la douceur, le merveilleux. Donc pour colmater la souffrance que j'évoque, il y a effectivement la personnalité d'Azur et d'Aliénor, et il y a la beauté. Voilà. Donc, si tu veux.
Voilà. Oui.
Commenter.
Tu as aussi fait une incursion au niveau des chiffres, le septième ciel et septième étage.
Ah oui, c'est vrai.
Là, tu as fait assez fort. Et aussi un peu le côté mesquin des concierges, puisque la concierge de ce immeuble qui avait 7 étages et qu'au 7e étage vivait l'amour, eh bien la concierge était jalouse et égoïste. Elle dit ça, c'est pas possible, je peux vous déclarer comme faisant de la prostitution, alors que il n'en était pas question de tout ça. Mais la concierge, ben, il fallait qu'elle ait du blablabla à raconter.
Alors, c'est un petit épisode du livre, mais qui est très scénique, très cinématographique pratiquement. Mais c'était le contexte de la guerre, effectivement. Nous étions en guerre et ça se traduisait dans les comportements. Donc, c'est un épisode parmi d'autres. Et donc là, c'était aussi un combat pour l'amour d'un couple au sein de ce maelstrom qui était la guerre d'Algérie et qui se vivait aussi sur le sol métropolitain.
Voilà. Alors Florence, à un moment, je sens que tu prenais le lecteur comme s'il y avait c'était un feuilleton télévisé. Eh ben, on va ce soir un feuilleton, à demain soir pour la suite. Mais c'est le lecteur, en fait, compte, qui prenait ce côté épisode, puisque le lecteur reste maître de la page qu'il va lire.
Alors, ce qui m'est apparu dans cette écriture, c'est qu'il y avait quelque chose qui me dépassait. Voilà. Donc, ce livre, en l'écrivant, il m'a nourri aussi. Donc, voilà. C'est cette nourriture, j'ai eu envie de la partager par la suite. Voilà.
C'est ça ce qu'on ressent, hein?
Oui. Oui, oui.
Eh bien, on passe à une page musicale. Wonky, wonky, who wants to sing? Wonky, wonky, who wants to sing? Avec nous aujourd'hui, Florence Soufflet, n'est-ce pas Florence?
Oui, présente.
Tu parles pour présenter ton livre.
Oui, D'un jardin, l'autre. Voilà, et nous venons d'écouter...
J'y peux rien, j'ai envie de dire d'un jardin, l'autre.
Nous venons d'écouter, ça je précise puisque j'ai choisi la musique aussi, une musique de Death by Selfie, qui s'intitule Wonky et que j'aime beaucoup, voilà, que je trouve très dynamique.
Oui, on
très
t'a
dansant.
Proposé de faire aussi le choix musical.
Oui.
Et tu as bien réussi.
Merci.
Bien. Alors, ce n'est pas fini. Le mot fin n'a pas été écrit encore.
Non, pas encore. On en est encore au titre. Si tu étais interpellé par le titre.
Voilà. Alors.
Oui, tu as toujours envie de dire, Bernard, d'un jardin à l'autre.
Ah ben, ça je m'y ferai pas. Hein.
Oui, le jardin ça va. C'est...
Oui.
Alors pourquoi ce titre? Eh bien ce titre, il s'est imposé vraiment très... Enfin, pas forcément au début du livre, il s'est imposé au fur et à mesure... Et alors, qu'est-ce qu'un jardin? On le sait, c'est un terrain clos où on cultive des végétaux utiles ou d'agréments. Donc, il y a l'idée de jardin, des notions de terre, de nature, de clôture, de beauté, de travail de l'homme, mais aussi d'agréments, de nourricier et de spirituel. Donc, je m'étais rendu compte, je donne un éclairage, de l'amour inconditionnel de mes deux parents pour la nature, les jardins, les oiseaux. Et ma mère comme mon père portaient dans leur cœur ces thèmes privilégiés. Donc, je précise évidemment que cette histoire est imposée, est un roman, mais qu'elle s'inspire de faits réels. Donc, alors, je reviens au titre. Donc, il y a au moins deux jardins dont il sera question dans ce livre, hein, d'un jardin à l'autre. Donc, le lecteur le devine, il est vraisemblablement fait référence à la culture orientale et à la culture occidentale. Mais, enfin, il y a un flou dans le livre et on peut supposer qu'il existe d'autres jardins, d'autres cultures. Donc, le flou du titre laisse supposer que nous ne nous limiterons pas et qu'il va s'agir d'exploration dans certains espaces, dans certaines époques, et tu disais aussi dans l'intériorité des personnages. Et là, je suis entièrement d'accord, il est aussi question de jardin intérieur, donc de méditation, de narration. Voilà, donc il y a beaucoup d'intériorité qui se dégage de ce livre. Alors, je reviens encore au titre. Donc, à chaque fois, tu retiens le A. Donc, non. Il s'agit bien d'un jardin, l'autre. Alors, pourquoi cette ellipse? Pourquoi cette disparition du A, de préposition, tellement utile? Elle s'est imposée comme cela dans mon inconscient. Et donc, je suis attentive à ce que me dit mon inconscient parce qu'il me dit souvent des choses pertinentes. Et donc, pour moi, donc j'essaie d'interpréter moi aussi. Et il s'agit d'une immédiateté. Donc, l'oubli volontaire du A traduit une immédiateté et aussi une violence. Donc la violence de la projection de Flore en dehors de son monde habituel, de son confort aussi habituel, mais aussi de cette projection violente par le biais du deuil. Le deuil est brutal. Donc ce deuil brutal lui assigne un questionnement instantané. Donc Flore n'a plus le temps. Elle est projetée dans le vide d'un questionnement, au début sans réponse. Donc, à mon sens, il y a encore une autre idée, c'est la complémentarité, la proximité, la contiguïté, l'entrelacement des cultures, notamment occidentales et orientales. Voilà.
Alors là, j'aimerais poser une question. Est-ce que tu crois que cet entrelacement des cultures a fait que l'édition 5 sens ont dit « ça y est, ce livre, il faut l'éditer »
Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas répondre à la place de mes éditeurs. En tout cas, elles ont été touchées aussi, je crois, par cette histoire. Et je les remercie. Voilà. Donc, je crois en tout cas que cet entrelacement de cultures, ça fait partie de la richesse du livre. Et qu'il y a un dialogue entre les cultures. Il y a effectivement... une complémentarité, mais aussi un dialogue.
Cette complémentarité, on la retrouve dans nos rues, dans nos communes, dans nos villes. Et je pense qu'il faut l'entendre aussi.
Tout à fait, tout à fait.
Tu es d'accord là-dessus?
Oui, bien sûr. Enfin, moi, alors, je suis pour le dialogue. Hein, donc, la création, et la création, c'est du dialogue. C'est un dialogue imagé ou un dialogue vécu autrement que le langage courant, mais on peut même entendre dans le langage courant aussi parfois de l'art.
Florence, comment tu fais pour faire connaître ton livre auprès du public?
Alors, je voudrais en parler encore un peu, donc ce sera...
Tu as le micro. Hein.
Voilà, donc on parlait du titre du livre, et puis à un moment, tu me posais la question, des noms des personnages, oui.
Oui, personnages, enfin, il est facile de les suivre dans le discours.
Alors... Donc, tu me disais que tu aimes le prénom...
Ça serait.
Donc, Azur, c'était... pourquoi est-ce que j'ai choisi Azur? Il s'est imposé aussi. Grâce à mon inconscient. Alors, il faut savoir que l'azur, c'était le nom donné anciennement au lapis lazuli, qui était aussi appelé pierre d'azur. Donc l'azur, pour moi, ça m'a semblé évident, azur, parce que azur, c'est du rêve. Et mon père était un rêveur. Alors lui, comme Aliénor, comme ma mère d'ailleurs, aimait particulièrement aussi les oiseaux. Donc tout cela concorde. Et puis, donc la personnalité d'azur est un artiste qui nous ouvre. Donc le bleu était sa couleur préférée, mais... Il nous ouvre aussi sur l'infini, sur le merveilleux et sur la transcendance. Voilà, donc ça lui allait particulièrement bien. Alors, Aliénor, moi j'aime beaucoup ce prénom parce que c'était le prénom d'une reine. Donc Aliénor vient du grec, donc elle est énor, ça signifie richesse et honneur, et il signifie aussi compassion, selon certaines recherches. Alors il y a d'autres personnages aussi dont le nom est très sympathique. J'aime beaucoup Ismet, c'est aussi un très beau personnage. Ismet en arabe signifie, d'après mes recherches, j'ai nommé. Voilà, donc tout un programme.
D'ailleurs, c'est pour ça que tu lui fais jouer un rôle de confident et de conseiller.
Tout à fait, tout à fait. Voilà.
Florence, le temps nous file sous les toits. Je ne sais pas si nous ne savons pas gérer le temps. Ou...
Effectivement, Bernard, le temps passe très vite et nous sommes dans une densité, et densité qui est également dans la musique, hein, puisqu'on a écouté Vivaldi et l'hiver, c'est aussi très dense. Oui.
Alors, tu voulais continuer avec le vocabulaire?
Oui, parce qu'on parlait effectivement du titre, et le titre nous amène à aussi nous poser la question du vocabulaire. Alors, donc, le vocabulaire, je crois, est parfois riche, hein, d'après certains retours de lecteurs. Donc, je n'ai pas eu envie de balancer une histoire comme ça, sans atour, alors que le fond de l'histoire est riche et dense. Donc, j'ai eu aussi envie que cette histoire se fasse un peu désirer. Alors, il y a effectivement quelques mots un peu compliqués. Donc, c'est la magie de la langue française qui recèle une richesse de vocabulaire magnifique. Donc, je me suis un peu amusée. J'ai eu envie d'habiller ce texte, qu'il ait du panache, sans emphase toutefois. Alors, si parfois il y a certains mots qui sont compliqués, il y a aussi une musicalité du texte qui peut permettre au lecteur de ne pas faire de recherche immédiate sur le sens des mots. On le comprend aisément au travers de la lecture. Donc voilà, c'est un petit bémol.
Le texte invite le lecteur à continuer à lire et de ne pas se laisser distraire par une musique ou autre chose.
Oui, entièrement d'accord, Bernard. Enfin, disons que c'est plutôt les lecteurs qui m'ont rassuré aussi sur cet attrait du livre. Donc, j'ai eu l'exemple d'une amie lectrice qui m'a avoué qu'elle s'était levée au cours de la nuit pour lire la suite du livre à un moment donné. Voilà, donc j'ai été extrêmement gratifiée par ce retour.
Il nous reste vraiment très peu de temps.
Oui.
Si vous souhaitez avoir ce livre, vous allez voir votre libraire habituel. Vous lui dites, j'ai entendu parler d'un livre à la radio. Le titre?
Alors, c'est « D'un jardin à l'autre » de Florent Soufflet, aux éditions 5 Sens. Édition. C'est une maison d'édition suisse, mais les livres sont expédiés de France. Donc normalement, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à...
Donc vous allez lire français.
À l'envoi. Oui, alors, c'est aux éditions 500. Si jamais on a du mal à se le procurer, ça peut arriver. Le site des éditions 500 permet de se le procurer sans problème.
D'accord. Sinon, vous vous adressez à la plume colmarienne qui saura faire le lien.
Ah.
N'oublie pas de dire que tu es membre de la plume colmarienne.
Oui.
Et au Festival du Livre, tu as un espace depuis le 16 avril.
Oui.
Où tu peux rencontrer les lecteurs.
Oui.
Et partager avec eux petite ou grande partie de ton livre et les bienfaits de l'écriture.
Oui.
Je pense qu'on va remercier notre ami Frédéric pour la technique. Et tu as envie de dire un mot sur RTL?
Alors, oui, un dernier mot. Alors, merci Bernard. Donc, j'en profite pour saluer la plume colmarienne, mais également Annette. Que tu as évoqué à un moment.
Ah oui.
Angelina.
Tu étais très contente que tu as lu l'histoire Kleines Fräulein.
Je suis contraint et forcé de vous rappeler à l'ordre. Il vous reste très exactement 35 secondes pour prendre
gentil.
Le congé de nos auditrices et de nos auditeurs.
Alors, merci beaucoup. Alors, j'en profite également pour saluer ma famille, mes enfants, mes futurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Voilà. Qui écouteront peut-être, et j'espère, cette émission. Et je les embrasse, évidemment. Voilà.
Bien. Merci, Florence, d'avoir fait le déplacement à Colmar pour partager ton écriture.
Merci, Bernard. Merci, Frédéric.